3. Seldon n'était pas du tout certain de rencontrer l'empereur en personne. Au mieux, il allait voir quelque officier de quatrième ou cinquième rang qui prétendrait parler au nom du souverain. Combien de personnes, d'ailleurs, pouvaient prétendre l'avoir vu, cet empereur, en chair et en os, et non en holovision? Combien de personnes avaient vu l'empereur véritable, tangible, un empereur qui ne quittait jamais ce domaine impérial que lui, Seldon, était en train de parcourir en cet instant? Leur nombre était infime. 25 millions de mondes habités, chacun avec sa cargaison d'un milliard d'hommes ou plus. Et parmi tous ces quadrillions d'êtres humains, combien avaient déjà, combien auraient jamais l'occasion de poser un jour les yeux sur l'empereur en chair et en os? 1 millier? Et quelle importance d'ailleurs! L'empereur n'était guère plus qu'un symbole de l'Empire, au même titre que le soleil et l'astronef, en moins envahissant encore, et en moins concret. C'étaient ses soldats et ses fonctionnaires qui, à force de s'insinuer partout, représentaient désormais un empire devenu un poids mort sur les épaules de ses sujets, pas l'empereur. Seldon fut introduit dans une pièce de taille moyenne, meublée avec ostentation, où l'attendait un homme d'allure jeune, assis au coin d'une table dans une alcôve devant une fenêtre, un pied par terre et l'autre ballant. Il s'étonna qu'un fonctionnaire pût le considérer avec une attitude si dégagée, si enjouée. Il avait déjà maintes fois pu constater que les représentants de l'autorité, et particulièrement ceux de l'entourage impérial, avaient en permanence l'air grave, comme si le poids de la galaxie entière reposait sur leurs épaules. Et il semblait que moins leur rang était élevé, plus leur expression était menaçante. Il devait donc s'agir d'un officier placé si haut dans la hiérarchie, irradié à tel point par le soleil du pouvoir, qu'il n'éprouvait nullement le besoin de le voiler derrière une physionomie compassée. Seldon ne savait pas dans quelle mesure il devait avoir l'air impressionné. Il jugea préférable de garder le silence et de laisser l'autre entamer la conversation. Le fonctionnaire prit la parole.
« Vous êtes Harry Seldon, n'est-ce pas ?»« Le mathématicien ?»
Seldon se contenta de répondre. « Oui, monsieur. » Puis attendit. Le jeune homme fit un geste du bras.
« Ça devrait être sire, mais j'ai le protocole en horreur. C'est tout ce que j'obtiens et je commence à m'en lasser. Nous sommes entre nous. Je vais me faire plaisir et laisser tomber le cérémonial. Asseyez-vous donc, professeur. »
C'est à mi-tirade que Seldon comprit qu'il s'adressait à l'empereur Cléon, premier du nom, ce qui lui coupa la respiration. Il y avait effectivement un vague faux air de ressemblance, maintenant qu'il y regardait de plus près avec l'hologramme officiel que l'on voyait constamment aux informations. Mais sur ces portraits, Cléon, toujours vêtu de manière imposante, semblait plus grand, plus noble, les traits figés. Et voilà qu'il se retrouvait devant l'original. Et quelque part, l'homme lui semblait parfaitement ordinaire. Seldon ne bougea pas. L'empereur esquissa un froncement de sourcils, et avec cette habitude du commandement toujours présente même quand il tentait d'y renoncer, au moins temporairement, il répéta sur un ton péremptoire « J'ai dit asseyez-vous, mon ami, sur ce siège, en vitesse. » Seldon s'assit, sans voix. Il ne parvenait même pas à répondre « Oui, sire. » Cléon sourit.
« Voilà qui est mieux. À présent, nous pouvons discuter comme deux êtres humains que nous sommes, après tout. » Une fois le protocole oublié. Hé là, mon ami.
Si votre majesté impériale se plaît à le dire, hasarda Seldon, alors il en est ainsi.
Oh, alors, pourquoi tant de précautions? Je veux vous parler d'égal à égal, tel est mon bon plaisir. Passez-moi ce caprice.
Oui, sire.
Un simple oui suffira, mon ami. N'ai-je donc pas de moyen de vous atteindre ?
Cléon fixa Seldon d'un regard appuyé que ce dernier jugea vif et intéressé. Finalement, l'empereur remarqua
« Vous n'avez pas l'air d'un mathématicien. »
Seldon trouva enfin le moyen de sourire. « J'ignore à quoi est censé ressembler un mathématicien, votre maj... » Cléon rendit le doigt et Seldon ravala sa formule honorifique.
Un homme à cheveux blancs, je suppose. Barbu, peut-être. Âgé, certainement.
Pourtant, même les mathématiciens doivent bien commencer par être jeunes.
Mais alors ils n'ont pas encore de réputation. Le temps qu'ils se fassent remarquer du reste de la galaxie, ils ressemblent à la description que je viens de donner.
J'ai bien peur de ne pas avoir de réputation.
Vous êtes pourtant intervenu au congrès qu'ils ont tenu ici.
Comme bon nombre de mes pairs. Certains étaient plus jeunes que moi et on ne peut pas dire qu'on leur ait accordé beaucoup d'attention.
Votre contribution a en tout cas attiré celle de certains de mes fonctionnaires. J'ai cru comprendre que vous croyez possible de prédire l'avenir.
Seldon éprouva soudain une grande lassitude. C'était à croire que cette erreur d'interprétation devrait constamment entacher sa théorie. Peut-être n'aurait-il pas dû présenter son article. « Non, pas exactement, » répondit-il. « Ce que j'ai fait est bien plus limité. Dans de nombreux systèmes, la situation est telle que, dans certaines conditions, des événements chaotiques surviennent. Cela signifie que, au-delà d'un certain point, il devient impossible de prédire leur enchaînement. C'est également vrai dans le cas de systèmes relativement simples, mais plus leur complexité s'accroît, plus le risque de chaos grandit. On a toujours supposé qu'un système aussi complexe qu'une société humaine était destiné à devenir rapidement chaotique et par conséquent imprévisible. J'ai seulement démontré qu'en étudiant la société humaine, il est possible de choisir un point de départ et de faire des hypothèses appropriées qui supprimeront le chaos. Cela permettra de prédire l'avenir, non pas en détail bien sûr, mais dans ses grandes lignes. Pas avec certitude, mais avec des probabilités calculables. L'empereur, qui l'avait écouté avec attention, remarqua
« Mais cela n'équivaut-il pas à une méthode pour prédire l'avenir ?»
Encore une fois, pas exactement. J'ai montré que c'était possible en théorie, rien de plus.
Pour aller plus loin, il nous faudrait choisir un point de départ adéquat, poser les hypothèses correctes et trouver ensuite le moyen d'effectuer l'ensemble des calculs dans un temps fini.
Rien dans ma démonstration ne permet d'entrevoir la solution d'aucun de ces problèmes. Et même si c'était faisable, nous pourrions au mieux calculer de simples probabilités. Ce n'est pas là prédire, mais plutôt supposer ce qui est susceptible d'arriver. Tout bon politicien, tout homme d'affaires, tout individu de quelque influence doit effectuer ce genre de projection sur l'avenir et si possible sans se tromper, sous peine d'échec.
Ils le font sans l'aide des mathématiques.
Exact. Par intuition.
Avec l'outil mathématique adéquat, n'importe qui serait capable de calculer ses probabilités. Pas besoin de l'oiseau rare qui réussit grâce à une remarquable intuition.
Encore exact. Mais j'ai seulement démontré que l'analyse mathématique est possible, pas qu'elle est applicable.
Comment une chose peut-elle être possible ? Et néanmoins inapplicable.
Je pourrais en théorie visiter tous les mondes de la galaxie et rencontrer chaque habitant de chacun de ces mondes. Pourtant, cela me prendrait bien plus de temps que je n'ai d'années à vivre. Et même si j'étais immortel, la vitesse à laquelle naissent de nouveaux individus est supérieure à celle à laquelle je pourrais interroger les plus âgés, et pour être plus précis encore, ces derniers mourraient en grand nombre avant que j'aie simplement eu l'occasion de les aborder.
Et il en serait de même avec vos calculs mathématiques de prévision de l'avenir ?
Seldon hésita, puis poursuivit. Il se pourrait que le calcul mathématique soit trop long à effectuer. Même en disposant d'un ordinateur grand comme l'univers, travaillant à une vitesse hyperspatiale. Le temps d'obtenir une réponse, il se serait écoulé suffisamment d'années pour modifier la situation initiale au point de rendre cette réponse sans intérêt.
« Pourquoi ne peut-on simplifier le processus ?»
demanda sèchement Cléon.
« Votre Majesté impériale !»
Seldon sentait l'empereur se renfrogner à mesure que les réponses devenaient de plus en plus frustrantes, et lui-même répondait sur un ton de plus en plus solennel. Considérez l'approche scientifique des particules subatomiques. Elles existent en quantité gigantesque, et chacune bouge ou vibre de manière aléatoire et imprévisible. Mais ce chaos repose sur un ordre sous-jacent, de sorte que nous pouvons élaborer une mécanique quantique pour répondre à toutes les questions que nous sommes susceptibles de poser. En étudiant la société, nous remplaçons les particules subatomiques par des êtres humains. Mais cette fois, il y a un facteur supplémentaire. L'esprit humain. Les particules bougent sans penser. Ce n'est pas le cas des hommes. Évaluer les diverses attitudes et impulsions de leur esprit ajoute aux données une telle complexité que l'on n'a plus assez de temps pour tout prendre en compte.
L'esprit ne pourrait-il avoir un ordre sous-jacent au même titre qu'un objet qui bouge sans penser?
Peut-être. Mon analyse mathématique implique que l'ordre doit être sous-jacent à toute chose, si désordonnée puisse-t-elle apparaître, mais elle ne fournit aucun indice quant à la méthode pour le découvrir. Imaginez 25 millions de mondes, chacun avec ses caractéristiques et sa culture, chacun significativement différent de tous les autres, chacun contenant 1 milliard ou plus d'êtres humains dotés d'un esprit individuel, et tous ces mondes interagissant d'innombrables manières, en d'innombrables combinaisons. Même si, en théorie, une analyse psycho-historique est possible, il est peu probable que ce soit réalisable en pratique.
Qu'entendez-vous par psycho-historique ?
J'ai donné à l'évaluation théorique des probabilités concernant l'avenir le nom de psycho-histoire. L'empereur se leva brusquement, gagna l'autre bout de la pièce, pivota, revint sur ses pas, puis s'arrêta devant Seldon, toujours assis, immobile.
« Debout !»
ordonna-t-il. Seldon obéit et leva les yeux vers l'empereur, qui le dominait quelque peu. Il fit un effort pour ne pas baisser le regard. Enfin, Cléon reprit.
« Votre psycho-histoire, là, si on pouvait la rendre praticable, elle serait d'une grande utilité, non ?»«
D'une énorme utilité, à l'évidence. Savoir ce que recèle l'avenir, même d'une manière très générale et probabiliste, voilà qui constituerait un guide nouveau et merveilleux pour nos actions. Un guide comme l'humanité n'en a jamais eu jusqu'à ce jour. Mais, évidemment... » Il s'interrompit.
« Eh bien ?»
s'impatienta Cléon. Eh bien, il semblerait que, hormis quelques décideurs, les résultats de l'analyse psychohistorique devraient demeurer inconnus du grand public.
Inconnus ?
S'exclama Cléon avec surprise. C'est évident. Laissez-moi essayer de vous expliquer. Si l'on fait une analyse psychohistorique et que ces résultats sont livrés au public, les diverses émotions et réactions de l'humanité en seront aussitôt altérées. L'analyse psychohistorique, qui se fonde sur des émotions et des comportements induits dans l'ignorance de l'avenir, perdrait dès lors toute signification. Comprenez-vous ? Les yeux de l'empereur brillèrent soudain tandis qu'il éclatait de rire.
Magnifique !
Et il lui asséna une grande claque sur l'épaule qui le fit vaciller sous le choc.
« Vous ne voyez donc pas, mon vieux ?» dit Cléon. « Non ? La voilà, l'utilité que vous cherchiez. Vous n'avez pas besoin de prédire l'avenir, mais simplement d'en choisir un bon avenir, un avenir utile, et de faire le genre de prédiction qui modifiera les émotions et les comportements humains de telle sorte que l'avenir prédit se réalisera. Mieux vaut encore fabriquer un bon avenir qu'en prédire un mauvais. »
Seldon fronça les sourcils. « Je vois ce que vous voulez dire, sire. Mais c'est également impossible. »«
Impossible ? » ?»«
Eh bien, à tout le moins impraticable. Ne voyez-vous pas ? Si vous ne pouvez partir des émotions et comportements humains pour prédire l'avenir, alors l'inverse non plus n'est pas possible. Vous ne pourrez partir d'un avenir donné et en déduire les émotions et comportements qui mèneront à sa concrétisation. » Cléon paraissait frustré. Il pinça les lèvres.
« Et votre communication, alors ? C'est bien votre terme, n'est-ce pas, communication ? Quelle est son utilité ?»
C'était une simple démonstration mathématique. Intéressante pour des mathématiciens, mais à aucun moment je n'avais songé à une quelconque application pratique.
« Je trouve ce gâchis écœurant !»
s'emporta Cléon. Seldon haussa légèrement les épaules. Plus que jamais, il regrettait d'avoir lu sa communication, Qu'adviendrait-il de lui si l'empereur se mettait dans la tête qu'on l'avait mené en bateau? Et vraiment, Cléon avait l'air bien près de le croire.
« Alors, reprit-il, imaginons que vous soyez amené à faire des prédictions, qu'elles soient ou non fondées mathématiquement. Des prédictions que les spécialistes gouvernementaux, dont le métier est de savoir comment le public est susceptible de réagir, jugeront propres à amener des réactions utiles.
Pourquoi auriez-vous besoin de moi pour cela? Les spécialistes gouvernementaux pourraient faire ces prédictions-là eux-mêmes, en se passant d'intermédiaires. Les spécialistes gouvernementaux ne seraient pas aussi efficaces. Ils font bien des déclarations de ce genre de temps à autre. On ne les croit pas pour autant.
Pourquoi me croirait-on, moi?
Vous êtes un mathématicien. Vous auriez calculé le futur au lieu d'en avoir eu, disons, l'intuition.
Mais je ne peux rien calculer de tel.
Et qui le saurait?
Cléon le fixa en plissant les yeux. Il y eut un silence. Seldon se sentait piégé. Devant un ordre direct de l'empereur, serait-il prudent de refuser? S'il refusait, il risquait d'être emprisonné ou exécuté. Non sans procès, bien sûr, mais que de difficultés pour que le jugement aille à l'encontre des vœux d'une bureaucratie pesante, surtout lorsque celle-ci est aux ordres de l'empereur du vaste empire galactique. Finalement, il répondit « Ça ne marcherait pas. »
« Pourquoi ?»«
Si encore on me demandait de prédire de vagues généralités, qui ne pourraient raisonnablement se réaliser bien avant que cette génération, voire la suivante, ait disparu, nous pourrions peut-être nous en sortir. Mais dans ce cas, les gens n'y prêteraient guère attention. Peu leur importerait une éventualité située un siècle ou deux dans l'avenir. »
Pour parvenir à des résultats, poursuivit Seldon, il me faudrait prédire des événements aux conséquences plus directes, plus immédiates. C'est à cela seulement que réagirait le public.
Tôt ou tard, cependant, et sans doute plus tôt que tard, l'une de ces éventualités ne se réaliserait pas, ce qui mettrait aussitôt fin à ma crédibilité. Qui plus est, votre popularité risquerait d'en pâtir du même coup, et pis que tout, cela mettrait un terme aux recherches en psychohistoire, de sorte qu'on ne pourrait plus espérer l'améliorer, même si les progrès futurs en mathématiques pouvaient contribuer à la rapprocher d'une application pratique.
Cléon se laissa tomber dans un fauteuil et regarda Seldon, l'air renfrogné.
« Est-ce là tout ce dont vous êtes capables, vous autres mathématiciens? Soulignez les impossibilités. »
« C'est vous, sire, qui soulignez les impossibilités, » remarqua Seldon avec une douceur désespérée.
« Laissez-moi vous mettre à l'épreuve, mon ami. Supposons que je vous demande d'utiliser vos mathématiques pour me dire si je serai un jour assassiné. Que répondriez-vous ?
Mon système mathématique ne fournirait pas de réponse à une question aussi précise, même si la psychohistoire fonctionnait au mieux. Toute la mécanique quantique du monde ne peut permettre de prédire le comportement d'un unique électron, mais seulement le comportement moyen d'une grande quantité d'entre eux.
Vous connaissez vos mathématiques mieux que moi. Faites une prédiction raisonnable en vous basant dessus. Serai-je un jour assassiné ?
Vous me tendez un piège, sire, dit doucement Seldon. Ou vous me dites quelle réponse vous désirez entendre, ou vous m'accordez le droit de vous fournir la réponse de mon choix sans risque d'être puni.
Parlez librement.
Votre parole d'honneur ?
Vous voulez une promesse écrite ?
Le ton était sarcastique. Votre seule parole suffira, dit Seldon le cœur serré, car il n'était pas du tout convaincu.
Vous avez ma parole d'honneur.
Alors je peux vous dire qu'au cours des 4 derniers siècles, près de la moitié des empereurs ont été assassinés. D'où je conclus que vos chances de subir le même sort sont en gros d'une sur deux.
N'importe quel imbécile pourrait me fournir cette réponse,
fit Cléon méprisant. Pas besoin d'être mathématicien. Je vous ai pourtant prévenu à plusieurs reprises que mes mathématiques sont sans application pratique.
Vous ne pouvez même pas supposer que j'ai tiré profit des leçons données par mes infortunés prédécesseurs ?
Seldon prit une profonde inspiration et se lança.
Non, sire. Toute l'histoire montre que nous ne savons rien tirer des leçons du passé. Par exemple, vous m'avez admis ici en audience privée. Et si j'avais eu l'intention de vous assassiner, ce qui bien sûr n'est pas le cas, sire, s'empressa-t-il d'ajouter.
Cléon sourit sans humour. Mon ami, vous oubliez notre minutie et les progrès techniques. Nous avons étudié votre biographie, l'ensemble de votre dossier. À votre arrivée, vous avez été passé au scanner. Votre expression et vos empreintes vocales ont été analysées. Nous connaissions en détail votre état émotionnel. Nous connaissions quasiment vos pensées. S'il y avait eu le moindre doute sur vos intentions, on ne vous aurait pas permis de m'approcher. En fait, vous ne seriez plus en vie à l'heure qu'il est.
Une vague de nausée submergea Seldon, mais il poursuivit. Les exos ont toujours eu des difficultés à approcher les empereurs, même lorsque la technique était moins avancée. Or, presque tous les assassinats sont liés à des révolutions de palais. Pour l'empereur, ce sont les proches qui constituent le plus grand danger. Contre ce danger, une fouille méticuleuse des exos n'est d'aucune utilité. Quant à vos propres fonctionnaires, vos propres gardes, vos propres intimes, vous ne pouvez les traiter comme vous m'avez traité.
« Ça aussi, je le sais, » répondit Cléon. « Et au moins aussi bien que vous. En fait, je traite mes proches équitablement, sans leur fournir une seule cause de ressentiment. »«
Quelle absurde !» commença Seldon, mais il se tut aussitôt, fort embarrassé.
« Continuez !» fit Cléon avec colère. « Je vous ai donné l'autorisation de parler librement. Qu'ai-je dit d'absurde ?»«
Le mot m'a échappé, sire. » Je voulais dire inapproprié. Cette façon de traiter vos intimes est inappropriée. Vous devez être soupçonneux. Il serait inhumain de ne pas l'être. Un geste ou un mot imprudent tel que celui que je viens d'employer, une expression douteuse, et vous voilà aussitôt sur la défensive, le regard inquisiteur, et la moindre trace de méfiance met en branle un cercle vicieux. L'intime va déceler cette méfiance, d'où ressentiment de sa part et modification du comportement, malgré tous ses efforts pour l'éviter. Vous le décelez à votre tour, ce qui accroît vos soupçons, et en fin de compte, votre interlocuteur est exécuté ou vous êtes assassiné. Ce processus s'est révélé inéluctable pour les empereurs des quatre derniers siècles. Et ce n'est jamais qu'un signe des difficultés croissantes qu'il y a à mener les affaires de l'Empire.
Alors rien de ce que je pourrais faire n'évitera un assassinat.
Non, sire. Mais d'un autre côté, vous pourriez avoir de la chance.
Les doigts de Cléon tambourinaient sur le bras de son fauteuil. Rudement, il lança
« Vous êtes inutile, mon ami. Tout comme votre psychohistoire. Laissez-moi. »
Et sur ces mots, l'empereur détourna le regard, paraissant soudain plus âgé que ses 32 ans. « Je vous avais prévenu que mes mathématiques ne vous seraient d'aucune utilité, sire. Mes plus profondes excuses. » Seldon voulut faire une révérence, mais, à quelque signal invisible, deux gardes étaient entrés pour le raccompagner. À la porte, la voix de Cléon lui parvint de la chambre royale.
« Ramenez cet homme là où vous êtes allé le chercher !»